Radio Spirale. Comme traducteur, animateur et intellectuel, David Hommel joue depuis plus de 30 ans le rôle d'intermédiaire entre la littérature montréalaise anglophone et francophone. Mais cette situation ne devrait pas faire oublier la qualité de son œuvre romanesque, qui constitue le sujet principal de cet entretien qu'il donnait à Martine-Emmanuelle Lapointe dans le cadre des rencontres d'écrivains du CRILC. La rencontre avait lieu à la librairie Olivieri en octobre 2011.
Alors bonsoir et bienvenue à cette première rencontre des écrivains du CRILC. Je suis heureuse d'animer cette première rencontre parce qu'elle elle ouvre un cycle de rencontres qui sera consacré donc aux écritures anglo-montréalaises. Et notre premier invité, bien sûr, est David Hommel, que je vais présenter brièvement. Alors, David Hommel cumule les fonctions et les titres. Il est à la fois écrivain, scénariste, traducteur, réalisateur de documentaires. Il est aussi journaliste, chroniqueur et professeur. Pas un rôle que tu n'endosses pas. Il habite à Montréal donc depuis le début des années 80. Il a fait paraître des essais sur la traduction littéraire, ainsi que 6 romans, tous traduits en français. Il a reçu en 95 le prix du gouverneur général pour la traduction du roman « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit » de Daniela Ferrière. Les romans « Sonia and Jack » parus en 95 et « The Speaking Cure » paru en 2003, c'est ça, ont respectivement mérité à l'auteur les prix 1000 pages et le prix Hugh MacLennan de fiction. Son dernier roman, Midway, est paru en version anglaise et française à l'automne 2010, donc il y a environ un an. Donc je sais que tu ne souhaitais pas qu'on parle de ton rapport avec le milieu littéraire québécois francophone, mais je me permets quand même quelques petites questions en guise d'introduction, simplement pour... ouvrir peut-être ce cycle de conférences qui porte sur les écritures anglo-montréalaises. Et en plus, bon, le titre que nous avons donné à la rencontre est assez éloquent. Un étranger en terre étrangère. Bon, ça renvoie au livre biblique de l'Exode, mais ça renvoie aussi un peu à ta propre situation. Donc, je vais me permettre de te poser quelques petites questions.
Allez-y.
Sur cette situation, quelques petites questions de nature institutionnelle. Donc, tu as souvent été invité à parler de tes rapports avec l'Institution littéraire québécoise. Dans un article des années 90, tu t'es même attribué le statut de token ethnique.
Ça, c'était à une autre époque, la grande époque ethnique qu'on pourrait évoquer éventuellement.
Et tu connais bien donc l'Institution littéraire québécoise car tu as traduit plusieurs romans de langue française, tu as tenu une chronique dans la presse et surtout tu as fréquemment échangé avec des écrivains de langue française et anglaise. Donc, crois-tu qu'il existe toujours deux solitudes dans le milieu littéraire québécois? Grosse question, hein?
Pas pour moi. Mais je constate avec étonnement que pour les autres, si. Bon, je suis typique de tous les êtres humains. Je crois que je suis le centre de l'univers et tout le monde est comme moi. Mais ce n'est pas vrai. Et effectivement... quand je parle avec des amis auteurs francophones, avec quelques exceptions qu'on vient de nommer, comme Stanley Payon, par exemple, mais ça, c'est un homme de l'information, donc il connaît beaucoup de choses. Mais à part des écrivains très, très rares comme lui, on ignore ce que l'autre fait, et vice-versa. Donc, parmi les anglophones, j'imagine qu'il y a peut-être une exception, peut-être Gail Scott, parce que par ses affinités avec certains secteurs de la vie littéraire. Mais en général, je m'étonne chaque fois quand je constate que oui, ça existe, que les gens s'ignorent. Alors la vraie question, c'est que est-ce que c'est comme ça partout? Est-ce que c'est comme ça à New York où tout le monde écrit dans la même langue, plus ou moins, ou est-ce que c'est comme ça à Paris, etc.? Est-ce que c'est juste une question d'égoïsme, d'esprit de clocher qu'on retrouve partout au monde? Ou est-ce qu'on est vraiment original? Mais je ne pense pas. Je pense que c'est comme ça partout.
Puis tu évoquais justement la période ethnique de la littérature québécoise. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de ces catégories critiques là, qui ont été forgées par l'institution littéraire, comme la littérature anglo-québécoise, les écritures migrantes?
Oui, mais il y avait une mode, parfois je fais des erreurs un peu pour exprès, là. Pour... Il y avait une mode de la chose migrante, immigrante, exilée et tout ça. Et j'ai dit une mode parce que je me souviens, on était, c'est deux ou trois, il y avait moi, Daniela Ferrière, notre regretté ami Émile Olivier, Sergio Kokis, et parfois Ying Cheng qui disait jamais rien. Donc elle avait l'air vraiment d'une sorte de Bouddha. Parce que moins tu dis, plus tu es sage, enfin intelligent. Et puis on était invité à coups répétés dans les institutions littéraires que vous évoquez, à un tel point où c'est devenu une sorte de cirque escouade volant. Et on refusait jamais parce qu'à cette époque-là, on avait besoin du cachet. On a toujours besoin du cachet de $200. Et puis aussi, on avait des rêves que peut-être quelqu'un va aller nous lire, parce qu'on était mis en catégorie. Et puis, bon, chacun, si on prend ce groupe-là, chaque individu dans ce groupe que j'ai nommé, on a chacun suivi des chemins différents. Et puis, il faut dire aussi que, grâce à des interventions, j'ai pu sortir un roman de ça, grâce à cette histoire que j'ai racontée trop de fois où quelqu'un m'accuse de manquer de sérieux. Et ça donne naissance au Speaking Cure, l'analyste, grâce à cet homme qui s'appelle Alain Médan et que j'ai déjà remercié publiquement de m'avoir insulté, qui a ensuite donné naissance à ce roman. Mais ça, c'est une vieille histoire que vous connaissez.
Oui, en effet. Bon, alors, c'était la partie question institutionnelle.
C'est vite fait, c'est bien.
C'était...
Non, j'avais dit à Martina... j'ai dit à Martine Emmanuel que je vous vois... Hey, you missed your plug. Ça, c'est pour Gail Scott qui vient d'arriver, que je viens de nommer. Oui, j'avais dit à Martine Emmanuel que je vous vois un peu artificiellement, que je ne voulais pas parler de toujours ces questions anglo-franco, parce que franchement, c'est extrêmement ennuyant pour moi, à tel point où quand j'ai fait le droit chemin qui se passe à Montréal, il n'est pas question ni de français ni d'anglais dans le livre. J'ai espéré offusquer des gens avec ça, mais ça n'a pas marché. Alors, c'est vrai que si nous allons tenter de parler plus littérature et création et non pas politique. Remarque, on va sûrement aller de l'un à l'autre.
Il n'en tient qu'à toi.
Oui.
Donc, on va tenter de ne parler que de ton œuvre, maintenant, promis. Alors,
C'est ma soirée d'égoïsme.
Alors, tous tes romans ont été traduits en français, et les deux derniers l'ont été très tôt, tant et si bien que les versions originales anglaises et leur traduction ont paru presque simultanément. Et j'aimerais, je ne sais pas, comme tu es traducteur, que tu nous parles un peu du rapport que tu entretiens avec les traductions de tes propres romans.
C'est toujours difficile parce que j'écris un roman, c'est terminé, entre guillemets, et puis là, je dois revivre tout de suite après le même livre avec quelqu'un d'autre qui me pose plein de questions, souvent avec une joie née de chacune de mes erreurs, comme si c'était le cas avec Sophie Voileau, avec Le Droit Chemin. Je voudrais sûrement pas me traduire, premièrement je pourrais pas, mais je revis, c'est pas si dur, mais quand même je suis obligé de passer par ce même examen de soi avec une traduction. Et puis, et ça marche pas toujours, il y a toujours quelqu'un... Comme par exemple, ça vient de sortir, c'est sorti, et puis Tout de suite, on me dit, mais regardez cette phrase, je ne comprends pas, elle n'est pas bonne. Si on m'accuse, moi, d'avoir mal traduit mon livre, même si je ne l'ai pas traduit. Donc. Et c'est pour ça que je dois quand même prêter attention au français, parce que je suis obligé de représenter le livre en langue française, même si ce ne sont pas mes mots à moi.
Mm.
C'est un peu bizarre. Mais comme ça, c'est comme ça.
Et dans The Speaking Cure, par exemple, il y avait vraiment un écart important entre la traduction et l'œuvre originale.
Oui, ça, c'était un truc à étudier pour les futures générations. Et c'est très, très simple. C'est que j'ai écrit The Speaking Cure, qui est devenu l'analyste. Je sais que Freud a dit The Talking Cure, mais je trouve que c'est mal traduit. Que le speaking cure, c'est meilleur. Et puis, c'était, dans l'horaire de l'éditeur Douglas McIntyre, et ensuite, après, pour des raisons que j'oublie maintenant, on a décidé de remettre la publication à quelques mois plus tard. Ce qui a donné à l'éditeur anglais, plutôt à l'éditrice, tous les éditeurs dont ma vie sont des éditrices, ça a donné lieu à d'autres révisions. Et l'éditrice m'a dit, vous avez fait ça, vous avez dit ça, vous avez écrit ça, on pourrait peut-être faire mieux. Alors j'ai commencé à réécrire l'anglais, tandis que les traducteurs avaient déjà fait le travail sur l'original qui n'était plus l'original. Alors, au lieu de faire travailler les traducteurs, et c'était Laurie Saint-Martin et Paul Gagné, j'ai dit, OK, il y aura deux versions, je m'en fous. Ça, et parce que dans l'original, mon original, qui n'est plus mon original anglais, deux personnages couchent ensemble à leur premier contact. Et puis mon éditrice anglophone m'a dit « Non, ça ne marche pas. » Alors, j'ai changé ça, tandis que les éditeurs francophones n'ont pas trouvé ça si impossible. Et puis, il y avait aussi toute une fin différente où je fais des brochettes avec Toronto, là, et puis j'ai mis sur le feu, puis je l'ai fait... bien cuire. Et puis évidemment, l'éditrice qui est de Toronto a trouvé que c'était de mauvais goût. Et puis aussi, je faisais un peu de satire sur les bien-pensants de Toronto, comme le genre de pen club et les gens qui veulent sauver les écrivains égarés d'autres pays, etc. Et puis on a trouvé ça d'extrême mauvais goût à Toronto. Alors, tandis qu'ailleurs, à Paris ou à Montréal, on a trouvé que c'était très bien. Alors, on ne gagne jamais. Mais c'était juste un accident, tandis que avec ces deux livres-là, c'est le même livre, je crois.
Mm-hmm, oui, bon, en tout cas.
Oui, ça, c'était juste une
erreur. C'est un cas quand même
assez
radical là, de
déviation. Je ne ferai plus ça.
Bon, alors, on ne parlera toujours pas de politique, même si...
j'ai l'impression que... je viens de parler de politique.
Pour parler d'histoire avec un grand H, mais aussi de rapport au territoire. Donc, l'histoire avec un grand H joue un rôle, je dirais, structurant dans ton œuvre. Plusieurs des intrigues de tes romans s'inscrivent dans des contextes sociopolitiques surchargés d'événements, de tragédies collectives, d'affects. Donc, la guerre du Vietnam dans Electrical Storms, paru en 88... au terrible nettoyage ethnique qui déchire la population de Belgrade dans The Speaking Cure, paru en 2003, en passant par le régime stalinien dans Sonia et Jack, paru en 1995. Donc, les événements historiques ne constituent pas qu'un simple horizon référentiel. Ils ont vraiment un rôle, ils font époque. Et dans les deux romans qui précèdent Midway, je dirais même que les personnages principaux sont façonnés par les événements de l'histoire. Ils deviennent les marionnettes de l'histoire, qui se jouent d'eux, en quelque sorte. Mais, bon, ils affichent quand même une sorte de distance critique qui s'affirme au fil de leur parcours. Et j'aimerais d'abord que tu commentes un passage qui est tiré de Sonia & Jack et nous dire en quoi peut-être ce passage définit ou non ta poétique d'écrivain. Donc, je l'ai en anglais, désolée.
Merci.
Et je vais essayer de lire comme il faut. Donc, history is made to be, if not rewritten, at least improved in novels. Though the characters and events are real and true to their nature, some have been shifted in time to obey the novelist's demands. This is always the case when miracles and romance are involved.
Ah oui. Non, je me souviens, est-ce que je réponds ou j'attends?
Tu réponds, est-ce que c'est une mise en garde qui pourrait...
Oui, c'est une mise en garde parce que, premièrement... j'avais pris des événements réels dans l'histoire réelle et j'ai un peu changé les choses. Donc, je m'attends, j'étais un peu sur la défensive parce que je me suis dit, bon, quelques critiques qui ne m'aiment pas arrivera pour me dire, ah là, il a fait ça et puis non, c'est pas comme ça, etc., etc. Alors, c'était un peu comme un avertissement contre des gens comme ça. Mais aussi, je pense que c'est comme une philosophie d'écriture, c'est-à-dire que c'est ça notre travail. Moi, je me suis inspiré par la première partie de Madame Bovary que tout le monde oublie, c'est-à-dire que nous étions dans la salle de classe à l'aide. Mm-hmm. Ouais. Et puis, quand il y a un élève qui entre, et puis on présente l'élève, et puis... Mais cette voix qui dit, nous étions dans la salle, casse disparaît entièrement. Mm-hmm. Et puis, Charles Bovary devient l'anti-héros du livre. Et puis, enfin, tout le monde a lu ça, ou presque. Alors, moi, je voulais faire un peu la même chose, c'est-à-dire que... Je suis là au début du livre et je dis voilà mon histoire miraculeuse et je vais raconter les miracles qui m'ont permis de survivre et venir jusqu'à chez vous, de raconter cette histoire que vous allez lire. Sauf que contrairement à Madame Bovary, je reviens à la fin. Donc, toute ma survivance est un miracle parce que je passe à travers... premièrement, au début, je ne suis pas né.
Non.
Je dis, voilà l'histoire de mes origines miraculeuses. Et puis, à la fin, je vis à Montréal et je raconte une suite de miracles qui me permettent et me permet et à moi et ma mère de survivre. Et donc, qui était un peu l'histoire de quelques membres de ma famille qui ont survécu à des choses tumultueuses dans les années 30, 40, 50, etc. Alors, et puis, je voulais dire aux lecteurs et aux lectrices, au lectorat, que, phew, heureusement, le français est abstrait et échappe au sexisme. Je voulais dire au lectorat, attention, vous allez voir des choses, vous allez voir des miracles ici. Donc, c'était une mise en garde, pas seulement contre les critiques qui voulaient me massacrer, mais aussi contre les lecteurs et lectrices rationnels. De toute façon, je ne sais pas si ça a marché parce que c'est toujours assez marginal, de toute façon, comme public.
Mais il faut dire que tu mets littéralement en scène des personnages qui ont existé, là, qui sont des personnages importants comme Borodine.
Oui, oui, il y avait des. Oui. Donc, ah oui, c'est pour ça, oui. C'est vrai que. Cette histoire avait commencé il y a longtemps, je pense quand j'avais 16 ans, et puis j'avais une cousine qui est un genre de dragon, on peut dire, dragon lady, c'est une femme, une vieille femme féroce, comme ça, et puis qui m'ont dit, enfin j'ai raconté ça il y a longtemps, mais qui m'a dit, sachant que j'allais entrer à l'université et faire de la littérature, pour lire la littérature, elle m'a dit, tu sais, dans le roman de ce Français-là, il y a un Russe, et puis il fait quelque chose, de toute façon, c'est ton cousin. Et moi, évidemment, c'était une vieille folle, mais finalement, elle avait raison. Puis le Français, c'était Malraux. le russe, c'était Borodin, dont le vrai nom, c'est Mikhail Grusenberg, qui est effectivement un cousin à moi, par ma mère. Donc, je voulais dire, ben, tout ça, c'est possible. Donc, tout ça est à moi. Donc.
Mais tu trahis l'histoire.
Oui, oui, parce que Borodin n'a pas fait dans la vraie vie ce que... C'est... Ah oui, c'est ça. Borodin n'a pas fait tout ce que j'ai dit qu'il avait fait. C'est un être un peu mystérieux, Grusenberg Borodin, mais dans ce livre-là, il fait toutes sortes de choses et qui arrive ci et ça, etc. Il perd les bijoux de la couronne du tsar Nicolas, qui essaie de vendre dans un monde de piété à Chicago. Il les perd aux Antilles. Bon, ça, c'est pas forcément vrai. Alors, je voulais me protéger. Merci de m'avoir pensé à ça.
Je vais revenir sur encore un peu sur tes bon, pas premier roman.
Ouais.
Et après, on passera peut-être à Midway. Mais en fait, je voulais parler un peu de la présence fantomatique de l'histoire et du territoire montréalais ou québécois dans tes romans précédents. Parce que dans Rat Pond, ton deuxième roman paru en 92, le père du narrateur découvre à la suite d'un accident qu'il parle le français pauvre de ses parents Canucks exilés aux États-Unis pour fuir la misère de Sainte-Perpétue. Oui. Donc c'est une sorte de retour du refoulé, en quelque sorte. À la fin de Sonia and Jack, le narrateur, bon, tu as dit que tu l'as associé à ta personne, tu en as fait ton alter ego. Donc, le narrateur Michael Maffili avoue qu'il habite Montréal, une ville d'expatriés, où la grande histoire, cruelle et imprévisible, ne semble pas avoir laissé de traces. « I suppose I like peace and quiet too much to wandering further. Can you blame me? » dit-il. Dans Midway, en revanche, la ville de Montréal n'est pas qu'un décor commode. Là. Elle devient vraiment un personnage, on pourrait dire, du roman. Elle est aussi une vue de l'esprit, un territoire fantasmatique. Elle déteint sur le personnage principal. Donc, je me demandais, et tu évoques évidemment son apparente sérénité, sa stabilité politique, son pacifisme, après justement avoir parlé de territoires où là, on n'était pas du tout pacifique, là, comme c'était le cas à Belgrade. Donc, à quoi est-ce que Montréal correspond dans ton imaginaire romanesque et, pourquoi est-ce qu'elle est de plus en plus présente, cette ville?
Je pense que c'était un défi parce que j'avais fait des romans qui se passaient dans les lieux difficiles, dit-on, comme vous dites. Alors, mais je pense que j'ai décidé, je ne sais pas, c'est une histoire de poule et de l'œuf parce que, bon, je vis ici depuis longtemps. Évidemment, j'ai une curiosité. Tôt ou tard, je dois écrire sur la ville où je vis. Mais je pense que, bon, ça sent l'obligation ou quelque chose, comme si je voulais faire plaisir aux voisins en les décrivant. Mais je pense que c'est plutôt que dans le droit chemin à Midway, je voulais... écrire sur un homme qui vit une vie qui est, croit-il, très, très tranquille. Et dans la tranquillité de sa vie, le rend inquiet. Alors, et qui, évidemment, ce n'est qu'une tranquillité apparente. Alors, pour moi, Montréal, et puis vous m'excuserez si je n'ai pas la même vision que vous, mais pour moi, Montréal est une ville très, très tranquille, très harmonieuse, où tous les jours, je suis étonné par la paix, par la tranquillité, par la bonne entente. Enfin, c'est incroyable. Et je vais continuer à le dire. Et je pense que c'est peut-être... en comparaison avec mon enfance, si tu veux, enfin, si vous voulez, et d'autres lieux que j'ai connus. Donc je voulais mettre en scène un homme tranquille, dans un lieu tranquille, cet homme qui n'est pas tranquille et ce lieu qui n'est pas vraiment si tranquille que ça.
Sinon, il n'y aurait pas eu de roman.
Oui, sinon, il n'y a pas de roman, oui, exactement. Donc, et aussi, je n'ai jamais été, maintenant on va faire la politique, alors soyez contente. À un moment donné, je lisais beaucoup de romans québécois-français. Et puis, je trouvais que Montréal n'a pas été... Enfin, on a mal mené, on malmène Montréal. C'est pas... La ville n'est pas bien décrite. Et puis, je pensais, évidemment, avoir la réponse à tout en disant que dès qu'on parle de Montréal comme un lieu où il y a des Anglos et des Francos, c'est foutu. C'est pas ça, Montréal. Et pour moi, ce n'est pas ça non plus. Donc, j'ai décidé... Bon, j'ai mis en scène des personnages, je dois lire quelque chose un peu plus tard, où il y a des gens d'un peu partout. Mais ce n'est pas multiculturel, interculturel et tout ce tralala. C'est juste des gens qui vivent quelque part. Comme dans les villes, j'imagine, où il y a très peu de natifs. Ça me ressemble, ça me rappelle San Francisco, que vous connaissez peut-être. C'est vraiment une ville où vous êtes mal pris à trouver quelqu'un né sur place. Enfin, la Californie, c'est peut-être ça. Donc, j'ai commencé à décrire ce lieu magique qui était autour de moi, qui est encore autour de moi.
Oui, en effet.
Oui.
Donc, en fait, c'est maintenant que tu devrais lire le passage de Midway, puisqu'après, on ne parlera que de Midway.
Ah, OK. Donc, moi, au début... Où est Patrick? Ah, il est là, Patrick. Au début, j'ai dit, je ne peux pas lire en français parce que mon accent va vraiment faire du mal à vos oreilles. Et puis, Patrick, qui est caché là, derrière un cinéma, pour nous, il m'a dit qu'on a... Les accents pas sont permis. Alors, je vais faire ça le plus rapidement possible. Alors, il y a un problème. Il y a entre le père qui est Ben et son fils. Bon, il y a le père qui est le vieux Maurice, ou Morris. Le père qui est Ben, qui est censé être moi, mais qui n'est pas moi. Et son fils, qui est un genre d'ado. Tony. Puis il vit dans Outremont. Alors, le problème entre Tony et son père Ben, c'est que Ben, c'est quelqu'un qui a une autre idée de l'espace que Tony. Je sais. Et puis, une chose qui scandalise toujours Ben, c'est qu'à Montréal, les gens laissent leur store et leur rideau ouvert. Et puis, ils trouvent que c'est vraiment, enfin, impossible. Alors, Ben marche dans la rue. La tiédeur du jour fit place à une soirée d'une douceur anormale. On est dans le mois d'avril. L'air même était une caresse. Pour fêter ce printemps, soudain, Ben partit faire les courses à pied. Il lui fallait acheter du pain, etc. Dans sa rue, à quelques maisons de la sienne, une baguette sous le bras, il s'arrêta devant une fenêtre éclairée, sans vergogne, a giorno, sans store ni rideau. La pièce évoquait la scène d'un théâtre. Immobile sur le trottoir, il attendit que commence la comédie. Il n'eut pas à patienter longtemps. Un homme et un petit enfant étaient déjà à table. Une jeune femme fit son entrée et posa une assiette à gratin sur un dessous de plat, sous le regard satisfait de son mari. Leur enfant décrivait des acrobaties aériennes dans l'air avec un animal en peluche. Les parents ne faisaient rien pour l'empêcher de jouer à ce jeu, alors que même Ben, dehors, sur le trottoir, savait très bien que le nounours finirait par se retrouver dans le plat de service. Plat de service? Quelle expression démodée! On ne servait plus personne de nos jours. Avec une innocence feinte, l'enfant lâcha son jouet qui fila piquer une tête dans le gratin dauphinois. De son poste sur le trottoir, Ben ne distinguait pas vraiment de pommes de terre dans le plat, mais ça lui semblait un exemple parfait de cuisine familiale de samedi soir. Alors que l'ourson amorçait son plongeon, Ben se demanda à quoi allait ressembler la punition, car cet incident était tout sauf un accident. Le père se leva de table, le nounours à la main. Il fit semblant de lécher sa fourrure pour lui laver la tête de la sauce au fromage qui était collée dessus. Ben vit les mains de l'enfant se brouiller lorsqu'il applaudit de plaisir. C'était un garçon comme son fils à lui. Le papa s'exclipsa et revint une demi-minute plus tard, muni d'un torchon. L'ourson était enveloppé dedans. Ben l'entendit presque prononcer « et hop, comme neuf » en le tendant à son fils. Ben en fut abasourdi. Quel choc! Pas de punition. Cet homme, ce voisin qu'il connaissait pas, aurait laissé avec joie son petit garçon lancer 1000 fois son ours en peluche dans le gratin dauphinois. 1000 fois il serait retourné à la cuisine pour le rincer et l'étrier avant de le remettre dans les mains tendues de l'enfant. Les yeux de Ben s'emplirent de larmes. Sa peine était le châtiment de son voyeurisme. « Ai-je jamais vécu quelque chose d'approchant ?» se demanda-t-il. « Adulte ou enfant ?» Il pensait que non. Il n'avait aucun souvenir d'une scène semblable. « Jamais ?» se demanda-t-il. « Jamais. » Enfant, on l'aurait puni. Ses frères l'auraient exigé, l'époque également. Père y aurait puni, comme le demandait à la fois son éducation et la tradition. Voilà. Donc, il faudra faire attention quand on regarde dans les fenêtres des voisins.
Ou quand on laisse ses stores ouverts.
Oui. Oui. Non, mais juste pour dire, c'est ça qui m'a frappé en arrivant ici. Et je me suis dit, quelle ville est-ce où on se sent tellement à l'aise qu'on laisse les stores, les fenêtres, enfin les rideaux ouverts. Et on le fait encore. Je passe dans la rue et je suis vraiment... Mais j'ai un malaise, vraiment quasiment nausée, physique, quand je vois les gens chez eux qui s'exposent. Parce que chez nous, le moment où l'intérieur est plus visible que l'extérieur, bang! Et puis, c'est pas un truc dans ma tête, là, c'est typique de ma culture. J'ai pas un problème de... comme de vouloir me cacher. D'ailleurs, j'ai vérifié parce que j'ai parlé avec des gens de ma famille. Évidemment, ça ne prouve rien. Mais, et qui vivent dans des endroits différents aux États-Unis. Puis j'ai un cousin qui a dit, « You don't want to show what you got. » Tu ne veux pas montrer. Ou surtout ce que tu n'as pas. Je pense que c'est ça. Alors voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait maintenant?
Tu voulais pas lire un autre extrait?
Ah oui, je vais tenter de... Parce que ça, c'est la comédie domestique, mais il y a aussi... Ce livre parle aussi de l'art. Et puis, pour vous, j'ai fait un psychiatre, mais qui est aussi artiste. Et qui a une façon de travailler qui est un peu bizarre. Et puis là, je dois remercier... les gens de l'hôpital Douglas qui m'ont aidé, qui m'ont laissé fouiller chez eux. Alors, il y a un psy qui s'appelle le Dr. Albana. Et puis, Albana, il fait des poupées avec des bouts de guenilles, c'est ça? OK. Mais il ne veut pas... aller chercher les bouts de guenilles lui-même, alors il a trouvé une façon. Alors, j'espère que ce n'est pas trop long. Ça, c'est en anglais, non?
Oui, c'est bien.
Oui, c'est en anglais. In case you're wondering. Nearly all of Dr. Albana's non-working hours were devoted to his art. He seemed to have no friends at the hospital or elsewhere. He kept the post office box as an address and had nothing that could have been called a home life. Sometimes he would stay at the hospital overnight. The institution was a city unto itself, and there were plenty of places to hide, away from the patients and the staff alike. Exhausted by his work, at midnight he would swallow a hypnotic and fall asleep on a pile of tarps in the groundskeeper's garage. His trained body needed only 4 or 5 hours to excrete the drugs, and the next morning he would be ready for work. Linen jackets had the advantage of looking acceptable, even fashionable, when wrinkled. The Albana method of doll making was not for the faint of heart. First, the doctor assembled his raw materials. His personal army of hysterical men fanned out across the city into those neighborhoods where the pickings were richer. They gathered up textiles from the street, the clothes of the homeless, torn bits of their sleeping bags, their cardboard pillows, even their stuffed animals. The homeless are like everyone else. Some of them remained attached to a stuffed panda or a monkey or some other animal that spoke for their childhood. Sometimes Albana's patients returned with brand new swathes of fabric. These were samples offered to tailors or cuttings from their shops discarded out back. Then Albana went to work. The rag trade was a tradition in his family that skipped his parents and alighted on him. He was educated. He made his living in a refined way, but he knew plenty about what you could do with cloth. Once he had his rags in hand, he began working them over. Here, the collaborative side of his art ended. Other people had gathered his materials, but he was in charge now. Ben had to admit that the doctor truly was an original. No one else had ever done these things to rags in the name of self-expression. Sometimes he burned the fabric with a hot iron, like a housewife taking revenge on an unfaithful husband's shirt. Other times he prepared a pigment bath using a variety of organic materials. At one point, he tried blood. He located a butcher shop run by two women from Haiti in the north end of the city. He bought 5 liters of pig's blood that people used to make sausages with. He stained the fabric with it and got the exact color he was after, the brownish red of a floor after a barroom brawl. But a few days later, a terrible stink filled the workroom and his office, and both rooms filled up with flies. He was working in a hospital with all the sanitation issues that arrive from such a setting, and he was in no hurry to be detected. Though technically there was nothing wrong with what he was doing, his art making was done on his own time, in the evening, after hours, but he felt a deep sense of shame about his work, and he discarded the entire batch of pigment. He returned to safer methods after that. Ink, paint, varnish, trusty solid material pigments, mineral pigments or synthetics. To get the sculptural forms he was after, he added powdered plaster to the cloth and pigment mix. No matter how he twisted and tortured the fabric, it always came out in the shape of a doll, the barest representation of human form. Est-ce que j'arrête ou je continue? J'arrête. Ah, je vais juste faire une chose. He buried the dolls on the hospital grounds. A week or two later, he dug the dolls up. Burial was a centerpiece of a strategy he had developed as a boy when he was 8 or 10 years old, and it explained the deep guilt that accompanied him during every minute of his work and that pushed him to use these borderline materials, blood and God knows what else. Albana had always loved playing with dolls as far back as he could remember. But his father flew into a murderous rage at the sight of his only son clutching a girlish plaything in his hand. "He was afraid of me," he told Ben, pain and pride fighting for control of his features. "It was the anger of impotence. He knew he'd lost me." Okay. So, anyway. Comme ça, vous entendez un peu de ce qui se passe.
C'est bien d'entendre quand même le texte anglais.
Oui.
On peut parler un peu de Midway, je pense, parce que c'est ton dernier roman. Et c'est quand même un roman qui provoque une sorte de réorientation. Montréal n'est plus fantomatique, mais...
Non.
Littéralement personnifié. Mais il y a une autre réorientation qui m'apparaît importante, c'est que tes romans précédents, ils donnaient vraiment un peu dans l'aventure.
Ouais.
On aurait pu les qualifier de road novels. Ils affectionnaient le dépaysement, les époques lointaines, les pays étrangers. Et dans Midway, on est vraiment dans le quotidien. Là. Les extraits que tu as lus en témoignent. Et on a l'impression que l'aventure se trouve au coin de la rue, tout près de soi, même en soi. Et on a... Et en fait, le personnage Ben Allen a consacré sa vie, c'est un professeur, il a consacré sa vie à une maladie qui s'appelle la dromomanie, qui est issue
pas
du...
Pas toute sa vie, mais il a écrit un texte sur la dromomanie.
J'ai exagéré.
Une maladie qui, malheureusement,
n'existe plus.
Et... enfin, ça a pris d'autres formes.
Mais je vais juste lire le passage en français... où on explique ce qu'est la dromomanie. Alors, de toutes les prodigieuses pathologies de l'époque, du 19e siècle, il en fut une qui éclata et brûla d'un feu vif avant de s'éteindre, tout cela en l'espace de quelques années. On nomma ce trouble dromomanie, un homme, car il s'agissait toujours d'un homme. On n'a recensé aucun cas de femme dromomane, sans doute parce que les routes ne leur étaient pas encore ouvertes, quittait un jour son domicile. Son travail, sa vie, se retrouvait ensuite à Moscou, Istanbul ou Paris. Et là, on a vraiment l'impression que la fascination pour l'action et l'aventure est transformée en objet de recherche. Elle est intériorisée, finalement, par celui qui n'oserait jamais abandonner sa situation. Et comment tu expliquerais-tu ce renversement, cette espèce d'intériorisation de l'aventure épique?
Oui, ça, ce roman, je sais, tous les écrivains ou les romanciers se plaignent de la difficulté d'être romancier, et puis je trouve que c'est un peu ingrat, mais c'était ce que j'ai fait de plus difficile, parce que finalement, je voulais faire un roman domestique, c'est-à-dire où il ne se passe rien. Enfin, il n'y a pas de guerre civile, il n'y a pas de Staline, ni Hitler, ni rien, ni des... Enfin, pas des... Des poupées, enfin des marionnettes qu'on peut agiter. Donc, je voulais écrire sur la vie domestique. Et puis, je voulais aussi comme faire ma version du démon de midi. Évidemment, si vous pensez que l'homme plus âgé couche avec la femme plus jeune, ben, vous allez voir si c'est vrai ou pas. Donc, et parce que le démon du midi, c'est comme parmi les pires et les plus nauséabonds clichés du roman actuel. Donc, j'ai dit, quand même, je vais y aller, et puis je vais jouer avec ça. Donc, et puis, à un moment donné, dans le roman, le personnage définit midlife crisis ou démon du midi, c'est la peur de la mort combinée avec le désir de tout détruire. Évidemment, c'est un peu paradoxal. Donc, je voulais à la fois quelqu'un qui voulait bouger, mais qui était très bien où il était, et puis il savait pas quoi faire, et puis peut-être c'était un peu moi, je ne sais pas, ou peut-être c'était un peu vous. La personne qui arrive à un certain point dans la vie, qui dit, est-ce que c'est ça la vie? Qu'est-ce qui est devant moi, derrière moi? Et aussi, je voulais écrire sur... le mariage longue durée, au lieu d'écrire longue longue haleine. et pourquoi ça marche, au lieu d'écrire sur l'aventure ou sur la liaison ou l'étincelle, enfin, qu'on a au cinéma. Et tout ça s'est avéré extrêmement difficile. Parce que finalement, c'est dans le détail, dans le fait que rien ne se passe, croit-on. Et aussi, je voulais évidemment, parce que c'est un peu nos vies, je voulais faire une fin heureuse en plus, par-dessus le marché. Donc, c'était vraiment... vraiment peut-être trop demandé. Et je vais vous donner un exemple. Il y a ce couple, donc il y a moi, le héros du livre, et puis mon épouse, qui est art-thérapeute. Elle fait de l'art-thérapie. Et donc, évidemment, on sait que tout ce qui se passe sous le sceau de la thérapie, c'est confidentiel. Enfin, c'est un peu comme avec les prêtres ou les avocats, les médecins. Mais... Mon épouse, tous les soirs, laisse son portfolio de dessins sur la table de cuisine, où elle sait savamment que je vais fouiller. Alors, c'est quoi ce message? Alors, tout d'un coup, si on le fait bien, il y a un énorme drame qui se passe parce qu'il y a un portfolio sur la table de cuisine. Madame est montée se coucher. Moi, je suis en bas parce que j'ai des habitudes nocturnes différentes. Et donc, il y a cet objet qui est là, qui est interdit, mais qui est quand même disponible, qui est elle, mais pas elle, qui c'est ses patients, c'est pas, etc. Donc, c'est ce petit drame comme ça. Et évidemment, c'est rien comparé à une guerre civile yougoslave, mais quand même, je voulais travailler avec ce matériel.
D'autant que tu avais quand même critiqué pas mal l'autofiction auparavant.
Oui, mais c'est pas moi.
La littérature du moi.
Oui, 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 oui. L'autofiction, oui, mais je ne sais pas ce que c'est. L'autofiction, c'est quand on dit « j'écris sur moi ». Moi, je dis
non,
pas
je
ça.
Sais.
Je n'ai pas écrit sur moi, ma femme n'est pas...
Non, mais tous les avatars tu sais, du roman du moi, de l'autobiographie, bon... T'en avais dit du mal, mais je suis pas en train de...
Ben, j'ai dit du mal parce que j'aimais pas comment c'était écrit.
Mais y a un concept qui revient très souvent dans Midway, c'est celui de l'inquiétante étrangeté. Je sais pas si
oui.
T'as envie d'en parler. Ouais.
Ah oui, continuez.
Tu veux que j'ai... Ok, je dois oui. Continuer. Ben, je vais... Donc, je vais... contextualiser un peu. On pourrait dire qu'il y a deux romans donc, dans Midway.
Oui.
Il y en a un, le premier serait écrit dans un style très réaliste. Là, il porterait sur ce que tu viens d'évoquer, là, la vie intime d'un cinquantenaire vieillissant, sur son démon du midi. Bon, c'est un roman qui explorerait les relations qu'il entretient avec son fils, avec son père, avec sa femme. Et l'autre roman aurait plutôt pour thème les rapports tortueux qui s'établissent entre l'art et la folie.
Mm-hmm.
Et là, on tombe dans l'univers du docteur Albana.
Oui, sur la représentation et sur le mm-hmm. spectacle aussi.
Et les deux romans viennent à se confondre. Il y a des légers transferts, des bizarreries, des curiosités, des décrochages qui vont lézarder finalement le prosaïsme, le quotidien. Mm-hmm. Par exemple, il y a un ancien prix Nobel qui en est réduit à manger des friandises dans la cage d'escalier d'une maison de retraite.
Oui, il mange des Almond Joy.
les expositions de Nan Gordon sont tenues dans la chapelle d'un institut psychiatrique. Ça aussi, ça me semble étonnant, mais...
À la Salpêtrière à Paris, qui est le modèle pour mon institut Pinel, qui n'est pas le vrai institut Pinel, mais qui est plutôt, je sais pas, Douglas peut-être. Mais j'ai passé de très belles heures, des journées de tranquillité et de paix à la bibliothèque Charcot à la Salpêtrière à Paris. Je vous recommande ça à tout le monde. Mais au milieu de la... Bon, vous êtes des gens sophistiqués, vous avez été à Paris. Et puis, au milieu de la Salpêtrière, qui est maintenant Salpêtrière Pitié, enfin, un grand complexe hospitalier, comme énorme, il y a une horrible chapelle qui ressemble plus à un genre de château fort, avec un toit en ardoise. Et puis, c'est peut-être la chapelle, l'église la plus hostile à la croyance. Et à l'intérieur, il y avait une exposition, un genre d'installation de Nan Gordon sur la folie. Et puis j'ai dit, ben, pourquoi on fait ça? C'est pas une très bonne idée. Alors, ou si.
Oui, peut-être.
Oui, alors...
Mais ce qui me semblait peut-être plus étonnant, c'est qu'elle était assise à Montréal, cette expo-là, plus que dans l'hôpital psychiatrique.
Elle était quoi?
Elle avait lieu dans ton roman à Montréal.
Oui, ben, oui, j'ai transféré, enfin,
oui,
c'est mon droit,
non? Tu t'es approprié, ben oui, absolument.
Non, mais j'en ai parlé parce que c'est sur la représentation de soi.
Mm-hmm.
Comment, et puis, bon, le livre parle du spectacle du moi. Beaucoup. Et puis, je pense que mon personnage est un peu puritain par rapport à ça. Mais ça, il faut lire le... Pas puritain, un peu carré.
Et la fameuse inquiétante étrangeté qui revient...
Oui, je n'ai pas... Ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est pas... C'est chez Freud.
C'est oui, Freud? C'est OK. Je n'ai pas lu Freud en français.
Parce que tu...
Oh, c'est ça, Unheimlich?
Oui, c'est ça.
Ah, OK. OK, merci. Des problèmes de traduction. OK, allez-y.
Quel rôle joue cette inquiétante étrangeté? Parce que la surface des choses, en fait, n'est pas ce qui nous intéresse dans ce roman, c'est bien ce qui se passe en dessous.
Oui, si on va écrire sur le quotidien, il faut être toujours prêt à dire, à tout moment, il y aura comme l'arrivée de quelque chose d'inattendu ou d'étrange. Par exemple, notre bon psychiatre qui travaille avec des bouts de tissu qu'il mine sur les rues, enfin qu'il glane ou fait glaner. Donc, tout d'un coup, cette idée pénètre dans l'esprit de notre héros qui est un peu rationnel. Et puis, un jour, il rentre de chez son père. Et puis, tout d'un coup, tout ce qu'il voit, ce sont des bouts de tissu, c'est des t-shirts perdus, c'est des bouts, c'est une chaussette par là, et tout d'un coup, il serait mort, tous les t-shirts qu'il avait perdus quand il était jeune, et comment il a souffert, puis est-ce qu'il a perdu son t-shirt préféré qui était signé par son joueur de baseball préféré, et tout d'un coup, il tombe dans le piège du mauvais psy ou du psy-artiste qui résiste. Donc, c'est à tout moment. Et j'ai connu, d'ailleurs, il faut dire qui est le docteur Albana. C'est un ami à moi, le pauvre. Mais il m'a donné sa permission. Il s'appelle Michel Nedjar. C'est un artiste français... Enfin, tunisien français qui vit à Paris et qui fait effectivement, qui n'est rien de, c'est pas un petit du tout, c'est un artiste, mais dont ses parents travaillaient au puce de Saint-Ouen, ok? On n'a pas de marché aux puces ici vraiment. Mais ses grands-parents, je pense, pardon, j'ai dit parents, ses grands-parents vendaient des schmatas, des guenilles d'occasion au marché aux puces. Et lui a fait de l'art avec ça. Et puis, ce gars-là est un peu inquiétant, justement, mais aussi très, très joyeux. Et puis, c'est un peu mon modèle pour ce genre d'art qu'on fait avec des immondices, tout en étant assez heureux dans la vie. Donc, vous pouvez aller sur Nedjar, c'est N-E-D-J, J comme Jean,
okay.
A-R. Mais, et aussi, c'est quelqu'un, c'est un animateur ou un activiste pour l'art brut. Puisque vous êtes sophistiqué, vous avez été au musée La Halle Saint-Pierre, ce qui est le musée d'art brut de Paris, puis lui a aidé à organiser ça, donc c'est un activiste. Donc, pourquoi je parle de ça? Ah oui, c'est quelqu'un qui ramasse tout autour, mais...
J'imagine que...
Comme nous.
Parfait, très bien. J'ai une dernière petite question, parce que je pense qu'on va laisser peut-être... L'occasion aux gens de te poser donc des questions. C'est une sorte d'ouverture sur l'avenir. Donc, est-ce que tu as commencé à rédiger ton prochain roman? Est-ce qu'il aura Montréal pour territoire ou
non? Je sais pas. Non, il n'y a pas. Non, mais cette fois, premièrement, j'ai comme une intrigue très forte. Je ne vais pas faire un truc un roman intime, domestique, où rien se passe, paraît-il. Je vais faire un roman. Avec social, qui a justement là pour fond, on dit, comme décor, la fin de la prohibition et le début de la grande crise économique. Parce que j'ai découvert, tout comme dans le Sonia and Jack, un sage à Moscou, que j'avais le célèbre Borodine qui était mon cousin. J'ai aussi découvert quelqu'un d'autre qui était un vrai méchant. C'était un bootlegger, un marchand d'alcool. Pas un contrebandier, mais un gangster, quoi. Et puis, c'est qu'il faisait partie... Mais c'est pas comme Bronfman qui a su se convertir du gangstérisme à la respectabilité. à la fin de la prohibition. C'était un petit. Et donc, j'ai dit, ben lui, c'est... Bon, c'est trop beau pour le... Il faut le réveiller, il ne faut pas le laisser dormir. Donc, ça va être... C'est plus facile d'avoir de l'intrigue. Guerre, vous faites pas ça, je ne sais pas comment vous faites. Oui, oui. Pardon, je fais du dialogue avec Gail Scott, mais qui est un peu à l'opposé de moi. Mais donc, mais quand même, je vais me torturer parce que je fais comme personnage. J'ai deux personnages principaux et les deux, ce sont des jeunes filles.
Ah oui.
Alors, ça, c'est mon défi.
C'est la première fois, non?
Oui. Oui.
Il y avait Sonia qui était un personnage important, je pense.
Oui. Oui. Alors, on verra. Mais les deux modèles, les deux jeunes filles de la fin des années 20 sont encore bien vivantes. Donc, elles me guident. C'est ma mère et ma cousine. Donc, elles sont là, elles participent très activement à la création. Encore deux dragons. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions? Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez vous avancer. Il y a un micro devant.
Il faut parler dans le micro pour là.
Oui, voilà.
Oui. Oui, je dis, si vous êtes timide, pas de veine, parce que pour la radio, il faut parler dans le micro. Oui. Oui. Ah, on a tout dit.
Les gens sont timides.
Ouais. Ah.
Vous avez parlé à deux reprises de Freud.
Oui.
Et
seulement
du
deux
fait
fois.
Que vous l'avez lu en allemand.
Non.
Non?
Non, j'ai lu en anglais, mais quand même, j'ai assez d'allemand comme tout le monde pour comprendre certains concepts dans la langue originale.
OK.
Mais j'ai pas lu en allemand. Est-ce que ça...
En fait, je voulais vous poser une question sur le yiddish.
Oh non.
Je sais pas le lien là, c'est peut-être... mais non, c'est simplement le rôle la place du yiddish dans... ton rapport à la langue et dans ton rapport au récit, c'est ça.
Ben, le truc avec Freud, par exemple, on disait à la maison, et puis mes amis dans la salle, mon ami dans la salle peut me corriger si mon prononciation est mauvaise, que it was a Hamish kind of a party. Heimacha, ça veut dire comme la maison. Et je pense c'est plus ou moins, je ne sais pas si c'est une prononciation yiddish ou allemand parce que je suis comme un peu pas très doué. Mais et donc quand je suis arrivé à Freud et j'ai dû Heimlich, j'ai dit ah c'est l'opposé de Heimacha, c'est-à-dire c'est pas comme à la maison, c'est comme pas à l'aise, c'est mal à l'aise. Donc, c'est inquiétante...
Étrangeté.
Donc, j'étais un peu préparé pour ça. Mais dans le droit chemin, c'est vrai que j'ai joué beaucoup avec mon père, qui, maintenant qu'il est mort, je peux le faire sortir... je l'ai fait sortir des ténèbres, j'adore ce mot en français, pour qu'il joue comme je veux, pour qu'il fasse et pour qu'il dise toutes les choses qu'il n'aurait jamais dites ni faites de sa vie. Et puis, une des trucs qui m'a toujours fasciné avec mes parents, c'était toute cette histoire autour de la langue cachée, de la crypto-langue. Enfin, des profs m'ont appris à appeler ça comme ça et je suis très reconnaissant. C'est ça, c'est-à-dire la langue qui est derrière la langue qu'on parle, la langue qu'on prétend qu'on ne parle pas, la langue qu'on renie tout en la parlant, et ça, c'est typique. Donc, Et je pense que peut-être si on grandit autour de ça, on comprend que derrière tout ce qu'on entend, il y a d'autres choses. Et moi, je suis comme beaucoup de... Je vais raconter une histoire. Un soir, j'étais à la bibliothèque publique juive avec des écrivains juifs de mon âge, et puis une dame noble et digne, pour ne pas dire plus âgée que nous, arrive pour dire « Ah, quelle honte, vous ne parlez plus yiddish. » Et puis nous, évidemment, on dit « Ah oui, on parle. Oui, bien sûr qu'on parle. » Et puis on a commencé à sortir une expression après l'autre, et chaque expression, évidemment, était très négative. On ne pouvait pas dire « il fait beau ». On pouvait seulement dire « il fait mauvais ». Donc, parce que c'était la langue qu'on parlait pour commenter. Ça, c'est dans toutes les maisons, c'est comme ça à Montréal, ou presque. Mais l'idée que derrière une langue, il y a une autre, et donc si il y a une autre derrière, ben, qu'est-ce qui est derrière ça? Et ensuite, et ensuite, et ensuite. Donc, je pense que c'est une bonne éducation pour les artistes en général, mais surtout les artistes de la langue. Et puis, j'ai écouté mes parents, j'ai écouté cette comédie pendant toute mon enfance. Et pour combler la comédie, un de mes frères a maintenant, épousé ou je ne sais pas, mais qui a maintenant une copine, même s'ils sont dans la soixantaine. Et puis là, il s'exerce à apprendre le yiddish, et puis tu sais, il se parle en yiddish, et puis pour moi, c'est vraiment... c'est très comique pour moi. Mais en même temps, peut-être il y a quelque chose, parce qu'ils essaient de reprendre un passé qui n'a peut-être même pas existé, on ne sait pas. Je ne sais pas. Mais tout le monde écrit sur ça, c'est un... et pas juste dans mon groupe ethnique, les Italiens ont fait ça ici, enfin tout le monde. Parce que c'est une richesse pour les narratifs, pour les récits.
Oui, j'ai... Ouais. Peut-être j'aurais deux questions. Enfin, une question qui est purement informative, informationnelle, au sujet de le prochain roman que tu publies, sur lequel tu travailles plutôt.
Ouais.
Tu parlais de la prohibition et de la crise, et je me demandais, toi tu es né à Chicago, et donc évidemment c'était le lieu de le bootlegging par excellence et tout, et Montréal était aussi le Québec, mais un lieu justement pour faire passer cet alcool. Alors est-ce que, juste pour l'information, est-ce que tu vas jouer sur le deux pôles Chicago-Montréal, ou est-ce que tout va se situer plutôt dans le contexte américain?
Ben, pas pour l'instant, pas pour l'instant, ouais.
Juste curiosité. Ouais. Autre chose, je pense que j'en ai parlé. Moi, il y a une chose qui me frappe toujours chez les écrivains anglophones en général par rapport aux écrivains francophones, qui fait peut-être que je trouve que la littérature de langue anglaise se porte mieux en général que la littérature de langue française, pour moi. Deux choses. Ben, il y a une chose sur laquelle on peut pas... ça fait partie, je pense, des contraintes de la langue. En français, ou bien on choisit le passé simple comme temps de narration. Et là, automatiquement, c'est, comme Barthes le disait, la littérature qui s'affiche comme littérature, le roman qui s'affiche comme dans la tradition littéraire. En anglais, c'est pas ce problème-là, heureusement. Vous avez le past tense. Alors, past tense, soit qu'on le traduit par l'imparfait, soit qu'on le traduit par le passé simple, par le passé composé. Mais dès qu'on fait un choix, généralement, on choisit le passé simple en français, il y a quelque chose souvent de guindé, d'artificiel en français, qui n'est pas le cas en anglais quand on lit en anglais. Ça, je pense que c'est... on n'y peut rien. On peut pas changer ça, disons. Par contre, autre chose sur laquelle je trouve que la littérature anglophone est plus forte, c'est le sens du dialogue. Et toi, je pense que c'est une chose qui me frappe toujours dans tes romans. J'ai pas lu le dernier, évidemment. Je viens de lâcher l'avoir, donc je vais le lire bientôt. Et je te lis toujours en anglais d'abord. Je vais pas te lire en français si possible, même si dans ton cas, très souvent, on trouve tes romans en français avant de trouver le roman en anglais. En librairie, à tel point d'ailleurs que pendant longtemps je disais The Analyst, pensant que la traduction, que la version anglaise était The Analyst et que le Speaking Cure ou la cure parlante était la traduction française, alors que c'est le contraire. Mais c'est le sens du dialogue. Je sais pas si ça te frappe, mais je trouve que très souvent, dans la littérature française actuelle, que ce soit en France, au Québec, peut-être encore plus, dès que le dialogue intervient dans le roman, on décroche un peu. On a l'impression là, qu'on passe à un autre registre et que c'est pas bien intégré à la narration. Il y a une rupture de style. On a l'impression que les dialogues sont un peu factices, sont un peu forcés, ou ils font trop littéraire, trop songer. Alors que plus souvent, je trouve, chez les écrivains américains, canadiens, anglais, je ne connais pas assez bien la littérature britannique pour me prononcer, ouais. Le dialogue semble plus naturel, j'aime pas le mot, mais s'intégrer mieux à la narration. Il n'y a pas ce bris-là. Et c'est une chose qui me frappe toujours dans tes romans en particulier. Et j'aimerais t'entendre un peu là-dessus. Comment tu travailles le dialogue? Comment tu perçois ça quand tu lis en français? Etc.
Ben, c'est la, en quelque sorte, la pauvreté. Et attention là. La pauvreté de l'anglais qui nous permet finalement une très grande liberté parce que nous n'avons pas de langue littéraire. Il y a d'autres, par exemple l'espagnol a aussi un temps littéraire, enfin au moins je l'ai étudié, même si j'ai jamais entendu ça. Mais donc il y a des langues qui ont des temps, des verbes, etc. Et puis des conventions pour l'écriture. Et en anglais on l'a pas, donc on est plus pauvre en quelque sorte. Pauvre en complications. On n'a pas de genre, ou si peu. On n'a pas de... Enfin, on a quasiment... On n'a pas de subjonctif, ou si peu. Enfin, vraiment, c'est une langue qui est vraiment, on dirait, très dépouillée, très pauvre. Et aussi, c'est une langue... J'ai jamais pensé à ça comme ça, mais c'est vrai. Aussi, c'est une langue... Si vous pouvez... Et puisque c'est une langue parlée, que les... Il y a très peu de différence entre le parler et l'écrit. Si vous savez parler, vous savez écrire dans cette langue. Et la seule chose qui empêche les gens qui savent parler d'écrire, c'est leur gêne ou l'idée qu'ils ont que je ne sais pas écrire. C'est intéressant. J'ai enseigné un peu, pas enseigné, j'ai donné des ateliers d'écriture en communauté, pas à l'université, dans la communauté, qui est une sorte d'euphémisme pour d'autres choses. Et puis, je dis toujours ça, si vous savez parler, vous savez écrire. Donc, et évidemment, ça mène vers une facilité pour le dialogue, je pense, où il y a moins de différence entre le dialogue et l'écriture de la narration. Et on voit... C'est vrai que j'ai lu Jeanne comme... Évidemment, c'est quoi le truc de Hemingway en Espagne? C'est « The sun also rises ». Oui. J'ai lu ça sur le tard et je suis étonné encore par l'avant-gardisme de son récit qui a entièrement parlé. Et puis... On met en scène des personnages qui sont un peu des paysans ou des combattants espagnols à côté de la narration, à côté de la pensée intérieure de cet Américain. Et c'est toute la même chose. C'est incroyable. Et puis, j'ai lu ça, j'ai dit, on a eu tort de tirer la chaîne sur Hemingway. C'est fait un peu pour des raisons extra-littéraires. Et aussi, j'ai sauté à ça, à Hubert Selby, Last Exit to Brooklyn, qui est d'une violence très imaginable, où il y a quasiment, où il y a le même registre de langue, pour narration, pour dialogue intérieur, pour dialogue entre personnages. Je refuse de croire, évidemment, c'est facile pour moi, je refuse de croire qu'on puisse pas faire ça en français. C'est pas à moi de le faire. Je sais qu'à l'époque, il y a le cassé de Jacques Renaud. Ça, c'est le truc où peut-être il y a eu le moins de différence entre le parler et l'écrit. Mais c'était plutôt une expérience, experiment, plutôt que d'autres choses. Mm-hmm. Et l'auteur n'a pas poursuivi. Et même les autres joualisants, on les a un peu oubliés, mais pas dans les cours de littérature québécoise, je pense. Ou Mais même dans les autres joies, les gens, même à Tremblay à l'époque, il y avait cette différence entre le parler et le reste. Donc, oui, et pour moi, comme un truc du métier, quand moi je veux dire quelque chose, moi, écrivain, je veux dire ceci, et ça marche pas, j'ai deux choix. J'ai dire, si ça marche pas, c'est un peu comme Wittgenstein à la fin du Tractatus, si tu peux pas le dire, tais-toi. Sauf qu'il a dit beaucoup plus gentiment. What man cannot speak of, he must pass over in silence. À peu près comme ça. Ou bien, si j'insiste pour le dire, je mets en dialogue. Parce que, en dialogue, je peux tout lire. Tandis qu'en narration, je ne peux pas. Et puis, j'ai encore redécouvert ça pour la xème fois aujourd'hui. J'écris à haute voix, je l'ai déjà dit, quand j'écris, je dis ce que j'écris. Ce qui veut dire que je travaille chez moi seul. Parce que c'est très bruyant. Alors, donc, c'est le rythme du parler. Non, c'est vrai, mais il y a sûrement d'autres langues pauvres comme l'anglais où on peut faire ça, mais je ne les connais pas.
Y a-t-il d'autres questions?
Ouais.
Oui, on est bon. Hein? Ouais. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercierai David Hummel de cet entretien.
Je dois dire ce qu'on dit toujours à la fin. On peut toujours se parler après, et les livres sont en vente à la caisse. Merci d'être venu.
Merci.